Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Périgord littéraire. Voilà, alors j'ai pour la dernière fois Weser, Folle Tribulation de Serge Française, publié aux éditions du Ruisseau l'année dernière et dans la collection Pagus. Alors notre auteur Serge Française a écrit des biographies de François Augérias, Brassailles, Manet, Klimt et publié des études littéraires divertissante comme La Lame de Proust, édition Payot 2013, ou Le Homard de Flaubert, édition Grasset 2019, et il collabore régulièrement au magazine Lire. Alors on va reprendre un peu ces histoires d'une personne à vélo qui remonte le fil de la Vézère jusqu'à son embouchure. Alors on n'ira pas tout à fait jusque-là, on laissera à nos lecteurs le plaisir d'arriver aux sources de la Vézère. Alors, on va reprendre un peu ce livre, ce que je disais. Alors, durant l'hiver 1863-1864, Édouard Larté et l'Anglais Henri Christie, qui fouillèrent de nombreux sites aux Aisies et à Alentour, firent des découvertes qui stimulèrent les études préhistoriques et firent la renommée de la région. L'intérêt pour la présence facilitée par le train qui desservait les Aisies depuis peu, se développa alors rapidement au détriment de la période romaine. La guerre du feu remplaça alors les œuvres de Tacite. En 1864, le marquis Paul de Vibray découvrit à Loche-Riba sa première statuette féminine du Paléolithique et surnomma la Vénus impudique. L'année suivante, il trouva sur le même site un squelette humain coincé sous une grosse pierre. Il l'appela l'homme écrasé. On en fit des cartes postales. En 1890, à l'issue d'un voyage aux Aisies, accompli avec des élèves de l'école normale d'instituteurs de Clermont-Ferrand, M. Chotard, président de la section d'Auvergne du club alpin français, écrivait ceci au sujet de l'homme écrasé. De quoi vivait-il? Il était jeune, pas une dent de marque, ne manque, et les incisives usées sont devenues des marteaux. Que voyait-il donc? Dans les os des jambes et des bras, les muscles très gros ont imprimé leurs traces. Cet homme très agile devait atteindre des animaux à la course et grimper aux arbres comme un écureuil. Alors on va revenir un peu quand même à l'époque actuelle. En 1868, Louis Larté découvrit aux Aisies le célèbre homme de Cro-Magnon. Une vedette celui-là. Une tête d'affiche, écrasé, l'homme écrasé. Cro-Magnon portait un collier de coquilles d'escargot. Près de lui, on trouva des grattoirs. Il était coquet et s'occupait comme il pouvait. Et s'il n'y avait rien à la télé, et il nous ressemblait beaucoup. Voilà un peu pour la description de cet homme. Alors, la forge des Aisies, qui datait au moins du XVIe siècle, l'employé du monde ferma ses portes l'année même de la découverte de Cro-Magnon. Le travail manquait. Or, il débarquait à la guerre, pléthore de vrais et encore plus de faux savants. C'était une ruée vers le silex, toutes sortes de sinoques, de maboules, d'azimutés envahissaient les Aisies. On les aguichait avec de vieux cailloux, des morceaux de ferraille, il en fallait peu. On leur chantait l'immortelle chanson. C'était au temps de la préhistoire, il y a 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'Oraoutan. Debout sur ses pas de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. Alors il poussait des hauts et des hauts et se lançait par des chemins suivis d'un terrassier, pelle sur l'épaule, bien décidé à creuser un puits si profond qu'il en sortirait la vérité toute nue sur les origines de l'homme. Ça faisait de l'animation, tout ce beau monde, il fallait le loger, le nourrir, le bichonner, il était mûr, si on le secouait, il tombait des pluies de pièces. Ce qui était toujours intéressant, évidemment, pour le commerce. Alors, Ozer était des personnages qui vinrent fouiller aux Aisies. Ozer était un gros homme, hableur, bavard, sonore, et un complet baffeur. Et aimant les plats en sauce, la charcuterie et le champagne, ce qui ne l'empêchait pas de courir les chemins pierreux, de grimper les raidillons semés de ronces, d'escalader et de sauter sur des rochers sans être essoufflé, de se glisser dans des excavations de la roche comme un blaireau. d'étaler les plantes plus raides avec l'agilité d'un bouquetin. Sous ses allures de Falstaff, il était d'une endurance qui forçait l'admiration. Alors, bien sûr, avec ses méthodes expéditives, il s'appropria le squelette néandertalien de l'abri du Moustier, qui donna le nom à Homo Moustériensis Oseri, et le vendit au musée de la Préhistoire de Berlin pour une somme énorme. En plus, son activité d'archéologue, il proposait aux visiteurs des voitures, des guides, des moulages d'objets. Il avait fait même basse sur l'activité touristique, mais aussi donné des idées qui allaient enrichir la région pendant des décennies. Avec son accent teutonique, roulant comme un orage et ses allures goguenardes, il avait expédié des centaines d'objets d'autre côté du Rhin. C'en était trop, d'autant plus que depuis la guerre de 70, on haïssait les Prussiens. Les soupçonnés se faufilaient partout, la preuve, il en venait aux exils sous prétexte d'identifier des biseaux et des cailloux. Alors donc, on avait du mal à le croire, comme il n'était pas capable de les authentiquer nous-mêmes. En 1913, le journaliste et naturaliste Henri de Varigny dénoncé dans le journal des débats le pillage des exils dans l'indifférence des autorités. En 1914, déclaration de la guerre, le grand mot fut prononcé espionnage. Cela expliquait tout. Bon, ben, le tour, on raccommoda les vieux drapeaux, on se taillait à la moussage, on sortit des fourches et des scopettes. Il n'y avait plus de doute, plus d'être un pillard. Oseur était un ennemi, la préhistoire un prétexte. Rien de plus lumineux, il avait été commandité par l'empereur d'Autriche. Oui, puisque Oseur était autrichien. Cela fleurait la lapidation, le bûcher, il était temps de mettre les voiles, ce que fit Oseur. N'empêche, grâce à lui, les exils avaient acquis une notoriété indiscutable. En 1913, on suggéra d'y créer un musée de la préhistoire. Cette bonne idée prit un tour officiel lors du passage du président de la République, Raymond Poincaré, le 14 septembre, de la même année. 10 ans plus tard, le 30 septembre 1923, le célèbre historien Denis Peyronny inaugurait le musée, alors installé dans l'ancien château de Taillac. La préhistoire venait d'entrer dans l'histoire. On va continuer un petit peu cette lecture. Alors, il y avait dit que l'attrait, le changement était impossible de contenir les foules, demandait sans cesse la nouveauté avec furie, jusqu'à s'entretuer. Cette idée fut renforcée par un séjour à Paris durant la terreur. En janvier 1793, on se dénonçait, on s'est tripé, on se trucidé entre voisins, entre parents. L'ambiance était au top. Joubert, dégoûté, s'installa à Villeneuve-sur-Yonne dans un logis appartenant à la famille de sa femme, car il était marié entre-temps. Alors, Joubert était de Montignac. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Car il a été marié entre-temps, c'est là qu'il commença de fréquenter assidûment Pauline de Beaumont. Pauline était née Montmorin en 1768. Son père avait occupé de hautes fonctions auprès de Louis XVI. Il avait été massacré durant la Révolution, une partie de sa famille souffreteuse, inconsolable. Pauline se laissait glisser vers la mort. Joubert l'aima tout de suite et c'était sans espoir à lui préférer Chateaubriand. Un coureur, vous imaginez même pas. Mais oui, Chateaubriand, c'était plutôt, mais enfin, est amoureux de Chateaubriand. Alors, on va laisser amoureux de Chateaubriand. À l'automne 1803, sentant venir l'enfant, elle courut à Rome pour le rejoindre et mourut de la phtisie dans les bras à l'âge de 35 ans. C'est beau. C'est Herf Joubert qui avait éprouvé pour elle plus que de l'amitié, mourut en 1824, à l'âge de 69 ans. Il fut enterré au cimetière de Montmartre, où il doit être encore. Chateaubriand fit publier une partie des pensées qui ont rendu Joubert célèbre. Mais j'ai sélectionné celle-ci pour vous, la sagesse et le commencement du beau. Il semble que les peuples aiment les périls, et lorsqu'ils en manquent, ils en crèvent. Voilà, alors, on va continuer un peu cette lecture. Alors, tandis que se vidaient les chopes de vin clairé, un type en collant avec un chapeau à plumes et des poulaines, on revient à l'époque actuelle, a chanté d'une voix de basse, accompagné d'une guitare. Le bistrot s'était transformé en beuglant. Les consommateurs et les consommatrices ouvraient les esgourdes, telles qu'à la messe, tout en braffant. Enfin, la chanson célébrait l'arrivée du printemps, les oiseaux guillerets faisaient leur nid dans la feuillée toute fraîche, les abeilles butinaient de fleur en fleur, et puis ça dégénérait. La paix avait duré tout l'hiver, c'était bien long, avec les beaux jours comme chaque année, semblable période à reparler de la guerre, on affûtait épais et épieux, on dépoussiérait les rondaches, hommes, gourdins, gourdasses, on déployait les oriflammes, en carapassonnait les chevaux, on s'est lancé dans la mêlée en criant. Alors Toine écoutait en croquant une tartine de Ragondin, on lui expliqua qu'il s'agissait d'un texte dédié à Bertrand de Borne, un troubadour né en 1140, non loin de là, au château d'Hautefort. Et oui, on remonte la Bézère. Ce Borne était célèbre pour avoir écrit des Cervantes, autrement dit des poèmes qui célèbrent la guerre. En résumé, il s'était fait connaître pour foutre le bordel partout où il passait. À la fin, il avait été puni, Dante l'avait rencontré en enfer, et promenant sa tête devant lui comme une lanterne. Et c'était une punition, ma foi, bien faite. Et notre pauvre Périgourdin était bien embêté. Alors, bien sûr, il va y avoir le duc de Normandie. Alors, l'un des préférés s'en faire un allié, lui offrit sa sœur en mariage. Lorsque celle-ci mourut, le boucher se remaria avec la fille du comte de Turenne. À la mort de ce dernier, on mourait beaucoup à l'époque, au moins une fois chacun, ni une ni deux, il fit même masse sur les terres de son beau-père. Puis Ranulf, vicomte d'Aubusson, considérait le château de Turenne comme son héritage, il s'en empara. Le boucher répliqua, illico avec ses restes, son hachoir, sa machine à saucisses, son jambon, ses pincettes, et le céder avec des sardines. Sa chanson préférée se jetait de toutes ses forces sur la porte de la citadelle. Il réussit à l'entrouvrir. Il passa ensuite une jambe entre les deux bâtons. La porte se referma alors sous le poids. Des assiégés. Et elle put broyer. Sa jambe put broyer. À l'époque, vous allez trouver un désinfectant et des lingettes stérilisées. On ne se lavait même pas les mains avant de passer à table. Résultat, la blessure s'infecta rapidement. Cette plaie purulente répandait une odeur pestilentielle. Le boucher prit alors le surnom de jambe pourrie. Alors, c'est un surnom comme un autre, enfin, qui dit bien quand même ce qu'il voulait dire. Ensuite, on mange du poisson, ce n'est pas gras le poisson, c'est bon pour le système immunitaire et tout un tas d'autres choses. Bourgnon pensait à ses compagnons aquatiques, il était l'innocence et la grâce incarnée. Avec leur nageoire, leurs aurons, leurs écailles scintillantes, rames révoltées, ce salaud, d'ichtyophage. Alors, ichtyophage, j'ai quand même cherché ce que c'était, et un ichtyophage est quelqu'un qui se nourrit uniquement de poissons, et il ne valait pas moindre d'entre eux. Il regarda sa jugulaire qui battait lentement, et la colère monta en lui d'un coup. Alors, on va le laisser en colère. Alors, saisissant l'empilement de tourelles, pignons et chauguettes, balcon encorbellement, poivrières, usherches se tiennent sur les hauteurs comme séparés de la terre. On y parvient à une longue montée. Toine et Charlie arrivèrent exténués au bord de la ville, de l'esplanade, de la lunade. Ils s'étendent devant l'abbatiale Saint-Pierre où ils trouvaient voir la Vézère profondément enchâssée au fond de la vallée, entre autres, et les peupliers. Alors, on va les laisser à leur... comment je pourrais dire, à leurs habitudes. Alors, pour la Vézère, donc on a vu Usherche, ils vont passer à Trégnac, évidemment, et puis ils vont arriver à la tourbière de Longeyroux, ou Longeyroux, comme vous voudrez, nous on prononce les Y, donc aux tourbières de Longeyroux, qui sont les sources de la Vézère. Alors, il va leur arriver quelques aventures entre-temps, que je vous laisse découvrir. Ben, ma foi, en lisant ce livre, Vézère, folle tribulation, de Serge Sanchez, aux éditions du Ruisseau. Et en attendant, à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.